Bonjour à vous toutes et tous. En général, au Printemps Agile, on fait une conférence d'introduction à l'agilité. Et donc, c'est un peu ce que je vais vous faire. Je vais vous faire une conférence, je vais expliquer ce que c'est que l'agilité et surtout pourquoi vous y échapperez pas. Alors, pour commencer, je voudrais faire un petit sondage. Qui ici est ou a, dans un moment dans sa vie, fait du développement informatique? Ok. C'est pas majoritaire. C'est pas majoritaire. Savez-vous que l'agilité, ça vient de l'informatique? L'agilité, ça a été inventé en 2001, en février 2001, par 17 consultants, experts, chefs de projet informatique qui sont réunis dans une station de ski aux États-Unis et qui ont posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité et qui, à l'époque, s'appelait les méthodes agiles. Ça s'appelait même une méthode légère avant de s'appeler les méthodes agiles. Et pendant longtemps, c'est resté quelque chose de typiquement informatique. C'était des méthodes pour réaliser des logiciels. Alors on se posait la question de savoir est-ce qu'on adopte une méthode agile, est-ce qu'on n'adopte pas une méthode agile. Et en fait, moi, ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est que de toute façon, l'agilité, c'est devenu incontournable et que tout le monde est concerné et pas seulement les informaticiens. Parce qu'en fait, ce qu'ont dit les consultants informatiques, ce qu'ont dit ces 17 informaticiens qui s'étaient réunis dans cette station de ski, c'est qu'ils avaient constaté qu'avec l'augmentation de la complexité des projets, plus l'incertitude qui les accompagnait, l'incertitude technique, l'incertitude sur le comportement des utilisateurs, etc., plus l'incertitude, la relation humaine devenait clé pour la réussite des projets. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que pendant un siècle, disons pendant tout le siècle dernier, pendant le XXe siècle, on a cessé de remplacer l'humain par des analyses scientifiques. Disons que au XIXe siècle, l'homme a maîtrisé la nature et après il a voulu tout maîtriser. Ce qui fait qu'il a développé des méthodes de plus en plus scientifiques. Ça a été la grande époque de l'organisation scientifique du travail. Et ce que disaient les informaticiens, les premiers informaticiens qui ont fait de l'agilité, c'est qu'on était arrivé à une situation où on avait créé un environnement technique tellement complexe que c'est un peu comme la nature autrefois, c'est-à-dire qu'on ne le maîtrise plus. C'est devenu trop difficile à maîtriser et on a besoin de retrouver cette capacité qu'ont les humains de collaborer. Et ça a été le début de l'agilité. Et de plus en plus, ça se développe et ça se déploie dans d'autres secteurs, tout simplement parce que cette complexité, on la voit apparaître partout. Cette incertitude, on la voit apparaître partout. Elle n'est pas du tout spécifique à l'informatique. Et les méthodes un peu loufoques qu'ont pu inventer les informaticiens à l'époque avec leurs post-it et leurs icebreakers et toutes ces sortes de choses, finalement, on s'aperçoit que c'est utile dans bien d'autres domaines. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de partir d'un certain nombre d'exemples que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle. Je suis informaticien, donc forcément, il y a pas mal d'informatique dans ces exemples, mais je vais surtout vous parler d'humains et de relations humaines. Il y a un environnement informatique, mais de toute façon, tout le monde a un environnement informatique. Quand je vous parlerai du déploiement des outils informatiques dans l'université, je pense que ça vous rappellera des souvenirs que vous avez dû vivre vous-même autour de déploiements d'outils. Je ne vous parle pas vraiment d'informatique, mais c'est ce que j'ai rencontré. Et puis aussi parce que cette complexité, et cette incertitude, elle est pas mal due justement au trop-plein d'outils informatiques, d'outils technologiques dont on nous abreuve et dont nous ne sommes pas toujours les maîtres, ou pas autant les maîtres que nous voudrions. Alors pour commencer, je voudrais remercier évidemment nos partenaires, traditionnellement, les diapositives de partenaires. Et alors, qui je suis, d'où je viens? Je suis né dans le 12e arrondissement de Paris. Ça n'a absolument aucune importance pour la suite, mais je suis d'origine parisienne. J'ai passé la moitié de ma vie à Paris et la moitié de ma vie en province. Disons à Caen, en Normandie. Et je peux vous dire qu'en Normandie, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut absolument pas faire à Paris. On est mieux en Normandie. J'ai fait ma thèse à l'Université Paris-Sud. J'ai été enseignant à Paris 13. J'ai ensuite été enseignant à Caen. J'ai créé une start-up qui s'appelait Valiosys et dont j'ai été le chief technologist. Et là, c'était vraiment la start-up où, avec des méthodes super mathématiques, on résolvait des problèmes de logiciels informatiques. Et ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. C'était horriblement compliqué à utiliser. Et par contre, ça m'a énormément appris. Ça m'a appris ce qu'était une start-up. Ça m'a appris ce qu'était le management. Et ça m'a appris que je ne savais pas manager. C'est toujours intéressant de le découvrir. Ça m'a appris la complexité de mettre une technologie face au marché. Ça m'a appris la complexité des besoins des clients. Enfin bref, ça m'a appris énormément de choses, mais ça n'a pas été un succès. Ensuite, j'ai été chef de projet à Bouygues Télécom. Et là, j'ai vraiment appris ce que c'était que le management de projet. Et je vais pas mal parler de mon expérience à Bouygues Télécom. Je vais vous montrer un projet qui a foiré. Et on va essayer de savoir pourquoi ça a foiré et comment on aurait pu faire pour que ça foire au moins un peu moins. Ensuite, je suis redevenu enseignant, donc j'ai passé 10 ans disponibilité. Alors j'ai ce privilège assez extraordinaire dans le monde universitaire d'en être sorti et d'y être rentré. En général, quand on en sort, on n'y rentre pas. Je n'avais pas spécialement envie d'y rentrer, mais j'y suis rentré quand même. Et donc, je suis un universitaire qui a fait de l'entreprise. Et vraiment, j'ai été chef de projet. Et puis à Bouygues Télécom, ils vous donnent pas de statut d'universitaire, c'est pas le genre. Hein. À Bouygues Télécom, vous êtes sur le terrain, vous dépatouillez pour convaincre les équipes. Donc, c'était bien. Enfin, c'était compliqué, mais c'était bien. Donc, je suis redevenu universitaire. Je suis même passé par Pôle emploi à un moment. Ce qui n'est pas courant pour les fonctionnaires. Et puis, j'ai créé le Club Agile, donc, en juin 2012. Ça a été le début. Pourquoi j'ai créé le Club Agile? Au début, j'étais informaticien. Je voulais enseigner la gestion de projet, puisque c'est ce que j'avais fait à Bouygues. Donc, quand je suis revenu à l'université, c'est ce que j'ai enseigné. Et puis, la gestion de projet informaticien, ça veut dire agilité. Et finalement, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au Club Agile, mais finalement, pas tant d'informaticiens que ça. En fait, l'agilité, sur la Normandie, ce n'est pas spécifiquement informatique. Et c'est très bien, et c'est bien le sujet de ma conférence. Bouygues Télécom, on y va? On commence? Donc, Bouygues Télécom, c'était en 2009. Ah, ça se voit très mal, mais c'était une petite réception pour la réussite d'un projet. Donc, c'était sur l'heure de midi, il y avait champagne, petit four, petit sandwich, on discutait, mondanité diverses et variées, on rencontrait les autres équipes. Sans le son, c'était parfait. Avec le son, c'était une autre histoire. Parce que ce qui se passait dans cette fête, et ça la rendait, c'est pour ça que je ne l'oublierai jamais. Pendant cette fête, le chef de projet hurlait, il était en train de cracher ses entrailles dans les toilettes. Il a eu une crise d'angoisse comme on n'en voit pas souvent, et ses cris traversaient la fête. Et donc vous aviez une petite fête avec des petits fours, des petits champagnes et tout ça pour la réussite du projet, et le chef de projet était en train d'agoniser dans les toilettes. C'est des moments quand même dont on se souvient. L'ambulance est venue, il a été arrêté 15 jours, et un mois plus tard, il était licencié. Bah. Ça m'a marqué, mais aussi on se dit que ça se produit en fait assez souvent. C'est-à-dire que c'est pas très souvent que le chef de projet crache ses entrailles dans les toilettes, mais c'est souvent qu'on fait des petites fêtes et des petits cocktails pour des projets dont on dit qu'ils ont réussi, mais en fait c'est un foirage absolument complet. Et on masque tout ça derrière les petits fours et le champagne. Alors c'était quoi? C'était un projet qui s'appelait GEX, pour gestion des exigences. Ah oui, le blanc n'est pas... Les couleurs sont... Normalement, c'est un peu mieux que ça. Vous voyez, ça s'appelle gestion des exigences. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gestion des exigences? Qui sait ce qu'est la gestion des exigences? Ouais. Bon. Les informaticiens ne savent pas ce qu'est la gestion des exigences. Voilà, je vais vous expliquer. Pour être autorisé à être mis en production, un logiciel, un produit informatique, à Bouygues Télécom, il doit avoir au plus 0 anomalie critique et 3 anomalies majeures. Ça veut dire qu'on met en production des logiciels dont on sait qu'ils ont des bugs. Mais pas plus que 3. C'est rassurant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une anomalie critique? Une anomalie critique, c'est une anomalie qui rend impossible l'utilisation du logiciel. Je vais tourner là, parce que faut essayer d'avoir mes diapositives en face. Quand même, ce sera plus pratique pour les lire. Hop, je reviens en arrière. Voilà. Une anomalie critique, c'est une anomalie rendant impossible l'utilisation du logiciel, d'une fonction essentielle, l'utilisation normale, une fonction essentielle du logiciel, sans solution de contournement trouvée. Donc ça veut dire, en fait, que ça ne marche pas, pour tout dire. C'est-à-dire qu'il y a une fonction vraiment essentielle, sans laquelle le logiciel n'a pas de sens, ça ne marchera pas. Par exemple, si vous voulez un logiciel d'emploi du temps et vous ne pouvez pas réserver une salle, bah, ça ne marche pas. Une anomalie majeure, c'est une anomalie critique, on a trouvé un contournement. Donc on peut arriver à la faire marcher, mais ce n'est pas le fonctionnement normal. Une anomalie mineure, c'est les autres. Et donc, pour être autorisé, un logiciel doit avoir au plus 0 anomalie critique et 3 anomalies majeures. Ça veut dire qu'effectivement, on objective qu'on va mettre en production des logiciels qui ne fonctionnent pas complètement. Simplement, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas une fonctionnalité complètement bloquée, mais il peut y avoir 2-3 fonctionnalités majeures pour lesquelles il faut faire une gymnastique bizarre pour arriver à les faire fonctionner. Ça, c'était la norme qui était acceptée à Bouygues Télécom. Et c'était une norme, en fait, complètement consensuelle, sans vraie raison. La logique, ce serait, on va pas mettre un logiciel en production, un logiciel qui a des bugs. Mais en fait, on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas à mettre en production des logiciels où il n'y avait pas de bugs, tout simplement parce que c'était Bouygues Télécom, donc c'était un opérateur téléphonique, donc il y avait un marché qui était assez actif, donc il fallait aller vite. Et s'il fallait aller vite et qu'on s'apercevait qu'il y avait des anomalies dans le logiciel, les corriger rapidement, c'était parfois une très très mauvaise idée. C'est-à-dire que vous pouvez corriger un bug et en introduire 3 autres. Vous pouvez foutre en l'air tout ce que vous avez fait. Donc, on ne peut pas corriger des anomalies qui sont un peu complexes en mode panique. Ce n'est pas possible. Donc, on préfère accepter qu'il y ait des anomalies qui soient mises en production. On met une norme qui va être de 3. Voilà, c'est consensuel. C'est pas fondé en raison. Hein, c'est comme ça. Mais on a mis une norme qui dit on n'en accepte pas plus que 3. Et on peut mettre en production. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'une anomalie majeure. Quand un analyste de test, à Bouygues Télécom, vous aviez des gens qui testaient les logiciels, et quand un analyste de test fait un test, et que ça ne marche pas, est-ce que c'est une anomalie majeure ou pas? En fait, l'analyste, il va vous dire un truc comme ça. Ça, je l'ai vu parce que j'avais accès à toutes les bases de données d'anomalies de Bouygues Télécom. Et donc, j'ai pu lire pendant 5 ans des tonnes et des tonnes et des tonnes de rapports d'anomalies, et ça donnait ça, du style, après le lancement du script xStudentEDT, on a le message ZDMB TableStudentEDT not filled with data on student 10998. Est-ce que c'est une anomalie majeure? Est-ce que c'est une anomalie majeure? Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Bon, ça, c'est le langage des analystes. Pourquoi les analystes parlent ce langage-là? Parce qu'ils lancent le script xStudentEDT, donc c'est leur langage, et que c'est le langage des développeurs. Donc c'est un langage tout à fait normal entre développeurs et analystes. L'analyste de test trouve le bug et dit ton script, il ne marche pas. OK. Maintenant, le client, l'utilisateur, il aimerait bien savoir est-ce que c'est majeur ou pas? Est-ce qu'il faut la corriger ou est-ce qu'il ne faut pas la corriger? Alors, si vous regardez la conséquence pour l'usager, c'est les étudiants n'auront pas tous leur emploi du temps à jour sur Zimbra. Parce que ça ne saute peut-être pas aux yeux, mais ça, c'est un script d'export de EDT de l'emploi du temps dans la table ZDMB, c'est Zimbra, des étudiants, des EDT, donc des emplois du temps des étudiants. Ah, ça ne se devine pas, hein, ça ne saute pas aux yeux. Et donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est cette espèce de bug-là, à quoi il est lié dans les fonctionnements finaux du logiciel. Et la gestion des exigences, c'est ça. Vous m'entendez? Ouais. La gestion des exigences, c'était ça. C'était d'arriver à faire le lien entre le langage complètement codé que pouvaient avoir les développeurs et les analystes de test, qu'eux seuls comprenaient, et puis les usagers des logiciels qui avaient besoin de savoir si effectivement l'anomalie elle était vraiment majeure, il ne fallait pas mettre en production parce que c'était trop grave, ou si ce n'était pas une anomalie si grave que ça et que finalement ça n'avait pas trop de conséquences. C'était de faire le lien entre le travail informatique et de codage et de débogage et les usagers. Et ça c'est un travail qui n'est pas facile du tout à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'informaticien qui vous dit il y a ça qui ne marche pas et vous n'arrivez pas à savoir si c'est important ou pas, c'est extrêmement courant. Et ce qu'on voulait à Bouygues Télécom, c'était évidemment être capable, systématiquement, quand on avait une anomalie, de savoir à quelle fonctionnalité importante elle était reliée. Et donc, l'exigence, L'exigence utilisateur, c'est ça. Les étudiants auront leur emploi du temps à jour sur Zimbra. C'est une exigence qu'on a sur le logiciel. C'est comme dans un cahier des charges. C'est le cahier des charges. On dit, ça doit être réalisé. Les étudiants doivent avoir leur emploi du temps sur Zimbra. J'ai oublié de préciser que Zimbra, c'est le logiciel d'affichage des emplois du temps de l'université. C'est l'environnement numérique des étudiants. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les analystes disent, quand je fais ce test-là, je vérifie cette exigence-là. OK ? Et on voudrait que, systématiquement, tous les tests soient reliés à une exigence. Comme ça, on sait, quand un test ne marche pas, quelle est la fonctionnalité associée qui échoue. Et donc ça, c'était l'outil GEX. Et donc l'outil GEX, ça va mettre en rapport les analystes de tests et d'autres services comme les équipes de sécurité du système d'information, les utilisateurs, parce que si vous avez un bug ou un dysfonctionnement, que c'est un dysfonctionnement de sécurité, on peut peut-être hacker le système, c'est quand même un peu gênant. Les utilisateurs qui veulent savoir si c'est des bugs importants ou pas. Les développeurs, bien sûr, qui ont besoin de savoir quels sont les tests qui sont faits sur chacune des fonctionnalités. La direction qui a besoin de savoir où en sont les tests. Le client, les concepteurs, la production informatique. Enfin bref, tous les gens qui sont autour de ces logiciels ont besoin d'avoir une vision commune. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver un langage commun entre tous ces gens-là. Est-ce que vous pensez que c'est simple ? L'idée à Bouygues Télécom, quand ils ont lancé ça, c'est de se dire « Oh, il y a des entreprises qui font de super outils de gestion des exigences. » Il y avait un leader sur le marché qui s'appelait Dors, qui était utilisé par Airbus. Mais eux, ils achètent la Rolls-Royce, OK, mais c'est parce qu'ils ont des gros besoins. Nous, les exigences, c'est simple. Alors, c'était peut-être simple en termes de nombre d'exigences, mais en termes d'utilisation d'un langage commun, c'était pas simple du tout. Et la première chose, la première erreur qui a été faite sur ce projet, c'est de penser que c'était simple. À vue de la direction, c'est simple. Ça, ça paraît tout simple. C'est une constante qu'on a de plus en plus dans les organisations, c'est que vue de la direction, tout est toujours simple. C'est dans le détail, le diable est dans les détails, c'est dans le détail que ça commence à se gâter. Alors ça s'est gâté. Alors, je vais vous présenter ma première grosse angoisse. En fait, j'étais le correspondant des analystes de test, des équipes de test sur ce projet-là. Ce n'était pas moi le chef de projet. J'étais un sous-chef de projet et je devais m'occuper des analystes. Et un jour, j'ai montré à mon collègue qui s'occupait des outils pour les analystes de test. Je lui ai montré la GEX. Hein. On avait tout fait, on avait acheté, on avait commencé le déploiement dans les maîtrises d'œuvre. Paf, on descendait dans les équipes de test, on montrait le truc aux équipes de test. Et les équipes de test, elles avaient, dans les documents, ça c'était des documents, et dans les documents, elles avaient la liste des exigences. Et je montre à mon collègue comment ça marche dans GEX. Alors, tu as le système qui est concerné, P3G, le projet, et dans le projet, tu as... Il me dit, mais c'est quoi ça ? Il me regarde avec ses yeux, yeux fusils, là, mépris, quasiment hautain. C'est quoi ça ? Ça, c'est les exigences produits. C'est quoi les exigences produits ? Il ne savait pas ce qu'étaient les exigences produits. Alors, j'ai eu une énorme angoisse parce que le produit, il était acheté, le produit logiciel était acheté. Tout était déployé, on allait déployer dans les équipes de test. Moi, je me suis occupé de sensibiliser les équipes de test et je m'apercevais d'un seul coup qu'on avait dans l'outil une notion, les exigences produits, que les analystes de test ignoraient totalement. Alors, c'est quoi les exigences produits ? Je vais vous expliquer rapidement, c'est pas si compliqué que ça. Quand vous faites un projet, vous dites deux cours ne pourront avoir lieu à la même heure dans la même salle, c'est l'exigence du projet, il faut que ce soit réalisé. Quand vous faites la deuxième version, vous allez dire... Les étudiants accéderont à leur emploi du temps en ligne. L'exigence de la version 2. Donc, c'est une fonctionnalité que vous ajoutez. L'exigence produit, c'est celle-là. Deux cours ne pourront avoir lieu à la même heure dans la même salle. C'est l'exigence produit pour le projet. Parce que ça, une fois que ça a été réalisé, c'est devenu dans le produit. Donc, c'est quelque chose, c'est une caractéristique du produit. Donc, ça s'appelle une exigence produit. Et les analystes de test, ils testent les deux. Ils testent les nouvelles exigences et les nouveaux projets, et puis ils testent les exigences qui sont déjà réalisées dans le produit, ce qu'on appelle les exigences produits. Et pourquoi ils les testent ? Pour la non-régression, pour vérifier que le produit marche toujours. Et donc, les analystes de test récupéraient la liste des exigences, et dans ces exigences, ils avaient les deux exigences à tester. Mais eux n'avaient jamais fait la différence entre des exigences projet et des exigences produit, ça n'existait pas. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Non? Oui? Bon, c'est un peu de l'informatique, c'est vrai. Expliquer ça à des analystes de test qui ont l'habitude d'avoir des documents d'exigence, des listes d'exigence tout à plat, c'est la vraie galère. Ils ne sont pas idiots, non? Ce n'est pas des étudiants, ils ne sont pas là pour apprendre. C'est leur métier, on leur impose un nouvel outil et on leur dit en plus, vous apprenez un nouveau concept. Dur. J'ai essayé et c'était vraiment, vraiment difficile. En fait, ce n'était pas nécessaire de faire ça, absolument pas. Mais on n'avait pas identifié que des notions qui étaient classiques pour les développeurs, pour les créateurs du produit, étaient complètement inconnues des analystes de test. On ne l'avait pas identifié. On ne savait pas qu'ils ne le savaient pas. Et ça, je vais revenir là-dessus. Ces détails-là peuvent tuer un projet, vraiment tuer un projet, ça paraît rien, mais ça peut tuer un projet parce que les analystes de test, quand ils découvrent ça, ils ne sont pas forcément favorables, ils n'ont pas forcément envie de continuer avec ça, ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce nouvel outil. Et donc, toutes les raisons qui font qu'ils peuvent se retourner contre vous, ils peuvent les utiliser. En fait, il faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu, mais ils n'ont pas forcément envie de réfléchir. Ce n'est pas qu'ils ne pourraient pas comprendre, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire. Et c'est une maladresse qui m'a beaucoup angoissé à l'époque. Un autre problème qu'on a eu, deuxième problème, il y a un monsieur qui est arrivé, qu'on va appeler Narcisse. Ce monsieur, ici il y avait un directeur d'équipe du côté développeur, qui était un manager qui avait été chef de projet, il était super sympa, il était super positif, il soutenait le projet, il avait tout fait pour que le projet soit dans l'AJAX. Puis il a été remplacé par monsieur Narcisse. Il y a personne ne s'appelle Narcisse ici. D'accord. J'ai changé le prénom parce que sinon, je me suis dit, il y a quelqu'un dans la salle qui va porter le même prénom. Il s'appelait Patrick, le gars. Et il y a peut-être des Patrick dans la salle. Bon. Et donc, Narcisse, il s'est mis à prendre une position de plus en plus importante dans le projet et même vraiment très, très importante. À tel point qu'il l'a fait planter. Enfin, en tout cas, il a beaucoup participé à sa plante. Pourquoi ce monsieur a participé à la plante du projet? Ben parce que c'était ce qu'on appelle un project killer. Pour le comparer, disons que il ressemblait un petit peu à Clint Eastwood dans les films des New Morricone. Je ne sais pas, vous savez, quand il y a une scène comme ça où Clint Eastwood arrive face à trois individus, les trois individus lui disent « Ah, c'est bête, on a que trois chevaux, on n'en a pas un pour toi », avec l'intention de le dégommer, et lui répond « Oh, bon, pas de problème, moi je trouve qu'il y en a deux de trop, et il les dégomme tous les trois ». C'était ça. C'est-à-dire, le gars, la première fois que vous le rencontriez, c'est vous qui aviez tort. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'était déjà vous qui aviez tort, et de toute façon, vous étiez le coupable. C'était... Enfin, ça pose question. Pourquoi des organisations aussi sérieuses et professionnelles que Bouygues Télécom mettent à la tête de certaines équipes des gens aussi néfastes? Il a tué tous les projets pratiquement qui sont passés par lui, tant que ce n'était pas son intérêt, il tuait. Il critiquait tout le temps. J'ai dit un jour, je me souviens, j'étais en réunion, j'arrive... Ah bah, ouais, ça on n'a peut-être pas fait... Ah bah, c'est encore votre faute. Immédiatement. J'ai une petite explication là-dessus, que je vous donnerai tout à l'heure. Il est intéressant de voir la première fois que j'ai rencontré ce monsieur. On avait une réunion à 10h, sur le projet GEX, justement. Il était au téléphone. Il était au téléphone parce qu'il avait eu un bébé. C'était mignon. Il téléphonait à sa femme parce qu'il avait eu un bébé. Oh, c'était attendrissant. Il avait eu un bébé. C'était mignon. Il était très attendrissant. Il téléphonait à sa femme parce qu'il avait eu un bébé. C'était attendrissant. C'était mignon, un papa qui a eu un bébé. C'est un peu comme ça, vous voyez, c'est un papa kangourou. Il était tout mignon. Il avait eu un bébé, c'était attendrissant. Ça a duré un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, ce monsieur nous a dit qu'il n'en avait rien à foutre de notre projet, qu'on était de vraies merdes, que ce n'était pas la peine d'espérer quoi que ce soit de lui. Mais il nous l'a dit gentiment, tendrement, parce qu'il avait mis un bébé. C'est ce qu'on appelle le langage paradoxal. Il vous dit « vous êtes une merde » gentiment. C'est de la manipulation mentale. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que ça vous supprime toute défense. puisque vous êtes attendri, vous ne vous défendez pas, et donc vous recevez en pleine figure que de toute façon, il n'a rien à faire de votre projet. Il a été aimable tout du long, mais on savait ce que ça allait devenir. Alors si ça vous intéresse, sur les manipulateurs narcissiques, vous avez ce livre d'Isabelle Nazaraga qui explique ce que sont ces personnalités, et vous n'arrivez pas à les cadrer, enfin c'est pas possible. Ils sont tout le temps dans l'agressivité, à vous humilier, à vous blesser. Il n'y a que eux qui importent. Et il était devenu manager au sein du projet, et évidemment le projet n'était pas cadré et capable de résister à ça. Et puis ensuite, on a fait des réunions avec tous les fournisseurs d'outils, puisqu'on allait acheter un outil du marché, et les réunions, c'était un peu ça l'ambiance, vous voyez. On sent qu'on a envie, on vous présentait des différents outils, et puis est-ce que ça vous plaît, est-ce que c'est ça qu'il faut, est-ce que c'est pas ça. On mettait toutes les équipes en randonnion, là, et puis on leur expliquait le produit, et est-ce que ça correspond à votre besoin. Inutile de dire qu'ils étaient complètement incapables de répondre. D'ailleurs, le produit qu'on a acheté ne correspondait absolument pas aux besoins, on a eu plein de problèmes avec. En fait, on n'avait pas du tout capté le besoin. Alors la question, c'est comment on peut répondre au défi, c'était le défi de ce projet, c'est trouver le produit standard consensuel. Et oui, parce qu'il fallait acheter un produit standard, il y en avait plein sur le marché, donc on n'allait pas en redévelopper un, qui parle le langage de tous et qui survive aux attaques de Narcisse. Ben, le malheureux chef de projet qui a récupéré ça, il n'était pas capable de répondre. Et c'est... Vous savez pourquoi j'ai été embauché à Bouygues Télécom? Non, on ne pouvait pas savoir. Mais moi, j'ai appris. Parce que le projet sur lequel j'étais, qui n'était pas celui-là, c'était pas Jack, c'était un autre, je ne vous en parlerai pas parce que je ne vais pas surcharger l'informatique ici, l'autre projet, personne n'en voulait. Parce que les chefs de projet expérimentés savaient que c'était ça, les projets d'innovation. Ils savaient qu'ils allaient se taper des problèmes comme ça. Et que c'est redoutable. C'est redoutable d'aller choisir des produits du marché, d'avoir les gens, d'avoir toutes ces complexités de langage, que tout le monde ne parle pas le même langage, et à Bouygues Télécom, c'était assez terrible, parce qu'en plus, toutes les maîtrises d'œuvre ne parlaient pas le même langage. J'ai vu le DSI s'exaspérer dans une réunion en disant « Mais je comprends rien. Je comprends rien. » Le DSI, il avait été major d'agrégation de mathématiques. Il n'arrivait pas à comprendre tellement il ne parlait pas le même langage. C'était terrible. Et c'est certainement pas involontaire. Il y a des jeux de pouvoir là-dedans. Et donc, vous aviez ce problème de trouver le produit, des langages qui étaient différents. Et puis, franchement, des narcisses, il y en avait quand même pas mal à Bouygues Télécom. Ce que j'ai pu constater, c'est que j'étais incapable d'être manager à Bouygues Télécom. Je me suis longtemps posé des questions. Pourquoi? Parce que je n'étais pas assez narcissique. J'y arrivais pas. C'est pas possible d'être comme ça. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Ça doit être un défaut. En tout cas, à l'époque, c'était un défaut. J'espère que ce n'est plus forcément un. Alors, on avait trouvé la solution quand même au début du projet. Ils ont mis quelqu'un de très, très intelligent, un brillant étudiant d'école d'ingénieur, qui a fait son stage et qui a rédigé un magnifique rapport sur les besoins qu'avait Bouygues Télécom sur les exigences. Donc, on a mis une tête penseuse, une tronche. Il faut résoudre le problème. Il a rendu un magnifique dossier. Et qu'est-ce qu'on en a fait du dossier ? Ça. Le gars aussi, d'ailleurs. Il servait absolument à rien. Absolument à rien. C'est-à-dire que ce genre de projet, à cause de la complexité des organisations, à cause du comportement individuel des personnes, des petits narcisses, à cause des langages, des relations qu'ont les personnes qui font qu'ils ne parlent pas du tout le même langage, ça devient de plus en plus difficile à mener. Alors, le résultat, c'est qu'une fois qu'on a acheté le document, bah, il n'y avait plus de boussole, on ne savait plus où aller. C'était un peu ça le projet, hein. C'était un labyrinthe, courir ou mourir, ça se traduit assez bien. Et le pauvre chef de projet, bah, il en a pris plein la tronche. Et on avait beau essayer de masquer avec des petits fours, du champagne et tout ça, il a quand même succombé. Enfin, bon, j'espère qu'il se porte mieux maintenant, il a juste été malade. Mais il a quand même eu une super crise d'angoisse. Alors l'agilité, vous direz quoi dans tout ça? Alors l'agilité... Et dites d'abord, première chose, faites un produit qui fonctionne avant de faire de la documentation. Le magnifique rapport que nous a fait notre expert, notre élève d'école d'ingénieur, ça ne sert à rien. Il faut proposer un produit, proposer quelque chose. De toute façon, les gens ne vous diront pas si ce qu'il y a dans ce qu'on a dans le rapport est juste ou pas, si c'est pertinent ou pas. On n'en sait rien. La problématique des exigences produits, là, que je vous ai montré tout à l'heure, personne ne savait quel est le problème. Personne. Personne ne l'a identifié. Il fallait qu'il y ait un produit pour qu'on l'identifie. Il fallait qu'il y ait quelque chose. La deuxième, c'est la collaboration avec les clients, les usagers, plus que la négociation contractuelle. Plutôt que de décrire toutes les exigences que devait avoir ce produit, va collaborer, essayer d'améliorer les premières maquettes au fur et à mesure, de façon à savoir quel est le besoin. Troisième chose, les individus et les interactions sont plus importantes que les processus et les outils. Se parler, revenir à de la relation, arrêter d'avoir tout le temps des processus, des rapports et tout ça, et aller montrer le produit et discuter avec les gens, retrouver de la discussion. Et dernière chose, l'adaptation au changement plutôt que suivi du plan. Tout simplement parce que lorsqu'on va commencer à déployer le produit, qu'on va commencer à voir comment il fonctionne, on va s'apercevoir de besoins qu'on n'avait pas identifiés. Par exemple, le besoin de masquer les exigences produits, elles n'ont pas besoin d'apparaître en tant que telles, même c'est perturbant pour les analystes de test. Ça change le plan, mais ça vaut le coup parce que si ça permet d'accepter le produit, de mieux accepter le produit derrière, c'est vraiment profitable. Et dans ce cadre-là, ça aurait donné quoi ? Si je devais refaire le projet, je peux passer à la diapositive suivante, je vois que c'est bon. On aurait fait un premier produit. Alors vous avez des outils de prototypage absolument magnifiques, de l'Access ou Visual Basic par exemple. Ça permet de très vite de prototyper un produit, de commencer à mettre des exigences dedans et puis de faire des POC, des proof of concept avec les différents clients. D'avoir des early adopters, donc des fans du produit, des gens qui disent « Ah ouais, c'est super ce qu'ils sont en train de faire. » Parce que si vous avez quelques adopteurs dans l'entreprise, dans l'organisation, ça va tirer les autres. Et donc, des adopteurs, des premiers adopteurs qui tirent les autres, qui disent « Venez voir ce produit, c'est super. » Et ça vous fait un mouton à cinq pattes. C'est-à-dire le produit qui correspond au mieux aux exigences de Bouygues Télécom. Et ensuite, si vous voulez acheter un produit du marché, vous montrez la maquette que vous avez faite, qui n'est pas pérenne, ça n'a pas pour but d'être pérenne, mais ça a pour but d'avoir bien capté tous les besoins et de savoir exactement, de comprendre le produit dont on a besoin et de le montrer à ce moment-là aux commerciaux. Si vous faisiez ça à Bouygues Télécom, la réaction était ça. Non, mais ça ne va pas à la tête. Non, mais alors, que je comprenne bien. Tu veux qu'on achète un produit, ça, d'accord, t'es OK. Mais tu veux qu'on en fasse ça avant, qu'on va jeter, pour comprendre le besoin qu'on a à Bouygues Télécom. Mais fais ton boulot, interroge les gens, fais ton document, et puis on aura la spécification du produit. À Bouygues Télécom, c'était vraiment pas imaginable de faire un proto pour comprendre le besoin qu'on avait en interne. Ce n'était pas dans la culture de l'entreprise à cette époque-là. Peut-être qu'ils ont évolué depuis, mais à cette époque-là, pas du tout. En fait, le problème, c'est qu'il est courant, je vous laisse méditer cette phrase, il est courant que les organisations ignorent ce qu'elles ignorent et qu'il faudrait savoir pour réussir un projet de transformation. Ça demande de réfléchir un peu. Quand vous ignorez ce qu'il faut savoir, ce n'est pas dur. Mais quand vous ignorez ce que vous ignorez qu'il faut savoir, c'est un autre problème. C'est en deux temps. Si je sais ce que j'ignore, je pose la question, c'est facile. Ça se fait par un rapport. Vous faites un rapport, okay, vous posez les questions, vous faites une enquête, facile. Mais si vous ignorez, si vous ne savez pas ce que vous ignorez, le coût des exigences produits, je ne savais pas que j'ignorais. Je ne savais pas qu'il y avait des possibilités d'avoir des incompréhensions entre les exigences vues du point de vue des maîtrises d'œuvre et les exigences vues du point de vue des analystes. Je l'ignorais complètement. Et c'est là qu'on arrive à un point de complexité qui est nouveau et qui fait que l'analyse cartésienne, rationnelle, classique est de moins en moins opérante. C'est que vous ne savez absolument pas quelles sont les questions à poser. Donc vous avancez dans une espèce de brouillard. Et si vous vous illusionnez en ayant fait un rapport détaillé aussi complet que possible que vous imaginez exhaustif, vous pouvez être sûr d'avoir raté 70% des questions importantes. Donc si vous basez tout le développement de votre produit ou l'achat d'une solution du marché là-dessus, vous avez toutes les chances de vous planter et de vivre de véritables galères. Et c'est ce qui se passait à Bouygues Télécom. Ils en étaient au point, je vous dis, où quand ils avaient des projets de transformation en interne, ils recrutaient des externes. Moi, la première chose qu'on m'a dite lorsque j'ai fait montrer l'avancement de mon projet, c'est « Mais c'est bien, ton projet, il avance. » Moi, j'étais fou, je me dis « Ah, Bouygues Télécom, ils ont de super chefs de projet, ils savent faire. » Ouais, ils savaient mettre en production des projets classiques, de nouvelles offres, d'évolution de produits, de nouvelles fonctionnalités sur des produits pour les clients, ça, ils savaient faire. Mais dès qu'il s'agissait de transformer l'organisation, ils n'y arrivaient pas. Les projets de transformation de l'organisation, les chefs de projet, ils les fuyaient. Ils n'y allaient pas parce que c'était à chaque fois trop complexe. Alors, quand on ne sait pas ce qu'on ignore, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, on peut... On expérimente, on procède par essai-erreur, hein, petite étape, on essaie d'atteindre la vision, mais on bouge de façon un peu aléatoire, on essaye, on se réadapte à chaque fois. On organise des ateliers avec les questions les plus ouvertes possibles. C'est pour ça qu'on fait des ateliers post-it où chacun peut exprimer son point de vue, même il peut répondre à la question qu'on n'a pas posée. C'est souvent très intéressant parce que s'il répond à une question qu'on n'a pas posée, c'est peut-être qu'elle est importante. On libère la parole, éventuellement par le dessin. Tout ce qui permet de créer du hasard, de la bonne ambiance, de l'envie de parler, de discuter, d'exprimer son point de vue, d'exprimer ses besoins, de façon même complètement atypique et parfois très différente de ce qu'on imaginait en tant que chef de projet, est utile. Le lâcher prise en particulier, lâcher prise, laisser les gens s'exprimer pour savoir, pour essayer de comprendre quels sont les besoins. C'est des techniques quasiment commerciales en fait. La base du commercial, au départ, c'est de poser des questions ouvertes, les plus ouvertes possibles pour comprendre le besoin de son interlocuteur. On accepte le hasard, la sérendipité, la pomme de Newton. Bon, l'anecdote est certainement fausse, mais beaucoup d'inventions ont été faites par des hasards heureux, des choses que l'on n'attendait pas. C'est pour ça, par exemple, que dans les forums ouverts agiles, on dit, mais de toute façon, c'est les bonnes personnes qui sont là. Ce qui s'est passé, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Arrêtez de toujours vouloir que ça se passe comme prévu. Si c'est imprévu, c'est peut-être que c'est bien. En tous les cas, c'est le mieux qui pouvait se faire. C'est comme ça, vous acceptez. Et c'est d'ailleurs comme ça que s'est créé le Club Agile Normandie. Hein. Si on m'avait dit que le Club Agile Normandie, ce serait un regroupement de gens aussi divers et si peu informaticiens, je ne l'aurais jamais cru au départ. Ce n'était même pas mon idée. Hein. La vision du club, elle a été créée lors d'un brainstorming libre. Ce n'est pas la mienne. Hein. Elle a été décidée par un brainstorming. C'est dans un brainstorming qu'on a décidé que ce ne serait pas un club d'informaticiens. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça a été fait comme ça. De façon ouverte, par un brainstorming ouvert. Et puis, on donne le droit à l'erreur. Enfin, peut-être pas jusque-là quand même, parce que Gaston, il exagère un peu. Il faut apprendre. Gaston, il continue à faire de la chimie malgré les catastrophes, donc ça, c'est pas bien. Bref, on utilise toute une panoplie d'outils agiles. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas capable de décider, parce que vous ne connaissez pas suffisamment le détail et que vous ne savez pas quelles sont les questions à se poser, eh bien, vous avez des outils comme les Innovation Games, passer en mode workshop, Agile Rétrospective, les Gamestorming. Et à chaque fois, à travers le jeu, ce qu'on cherche à faire, c'est provoquer des hasards heureux, provoquer des remarques inattendues, des comportements que l'on n'attendait pas, mais qui peuvent être essentiels pour la réussite du projet. Et ça, quand j'étais à Bouygues Télécom, on ne savait pas encore le faire. Ceci dit, c'est ce que j'ai fait dans mon projet à moi. Je l'ai mené, comme je vous ai dit là, en faisant des prototypes, en allant voir les clients, en travaillant en collaboration. Au lieu de 2 ans, j'y ai mis 4 ans, mais on a réussi à le mener. Donc c'est faisable, hein, ça peut marcher, mais c'est une autre méthode. Et il faut arriver à faire en sorte que les organisations comprennent qu'elles ne sont pas capables de s'auto-analyser de façon rationnelle. C'est en perturbant les gens, en les mettant dans des ateliers, en les faisant travailler autrement, qu'on arrive à provoquer des événements ou des prises de conscience qui ne sont pas évidentes. Voilà, donc ça, c'était ce qui s'était passé à Bouygues Télécom. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'autres exemples qui se passent à l'université. Ça, c'est notre logiciel d'emploi du temps. Il s'appelle ADE. Et sur ADE, vous voyez ici, il y a un cours. Le mardi 5 mars, en salle IA 124. Et vous voyez qu'ici, il y a un cours, le mardi 5 mars, en salle IA 124. Et vous voyez qu'ici, c'est l'L3 informatique, ici, c'est le MDFA, ici, c'est créativité logicielle avec 2 LE, ici, c'est créativité logicielle EL, donc ce n'est pas le même cours. Donc, vous avez 2 cours, à la même heure, dans la même salle. Ouais. Et c'est pas le même cours. C'est un peu embêtant pour un gestionnaire d'emploi du temps. On a à la fac un gestionnaire d'emploi du temps qui est capable de mettre deux cours à la même heure, dans la même salle. Alors, c'est bizarre. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, là, c'était pas très grave parce que créativité logicielle, c'est quand même le même cours, à savoir que, normalement, ils auraient dû faire ça, c'est-à-dire mettre les deux diplômes au même endroit. Mais on peut pas faire parce que l'IAE et l'UFR de sciences ne sont pas les mêmes UFR, les mêmes entités, donc on peut pas les mettre ensemble dans le même cours. C'est bête, moi, je fais des cours avec l'IAE et l'UFR de sciences, les informaticiens et les business. Mais non, on peut pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, j'ai donné le numéro de la salle au responsable de la licence informatique qui me l'avait demandé. Il l'a transmis à la gestionnaire de scolarité. La gestionnaire de scolarité a fait un ticket à la DSI, dont j'étais en copie. Donc, ça a été fait complètement dans les règles de l'art. C'est impeccable. C'est un modèle du genre. On a, en respectant parfaitement les procédures, créé un bug. Donc, c'est un bug propre, quelque part. Le support DSI a utilisé ses super pouvoirs, je ne sais pas de qui il les tient, mais il a des super pouvoirs qui lui permettent de mettre deux cours dans la même salle à la même heure. Voilà comment ça s'est passé. Alors c'est quand même bizarre que le support DSI vérole les données de ses propres outils. Parce que quand même, un logiciel d'emploi du temps, il ne doit pas y avoir deux cours à la même heure dans la même salle. C'est quand même une fonctionnalité de base essentielle du logiciel d'emploi du temps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le support DSI a été soumis à un choix cornélien, une injonction contradictoire. Là, c'est le petit diable. Hein. Je me fous des conséquences de données. Sur les données, je satisfais ma cliente d'abord. Bah ouais, c'est sa copine en face, donc... De façon tout à fait naturelle, il doit satisfaire ses clients. Donc, pour satisfaire ses clients, il doit donner la salle et il doit mettre un deuxième cours dans la salle de façon à ce que les étudiants soient bien informés qu'ils ont cours dans cette salle-là. De l'autre côté, je me fous de ma cliente, je dois assurer la cohérence des données avant tout. Alors là, j'ai mis une petite auréole parce que ça, c'est le bon informaticien qui respecte la cohérence de ses données. On ne doit pas avoir deux cours dans la même salle au même moment. Et ça, c'est un peu le petit diable, c'est-à-dire qu'il va violer la contrainte. Et ça, c'est une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'il est soumis à deux choix. Il faut qu'il choisisse entre les deux. Dans les deux cas, il peut se faire engueuler. Si l'accord de la salle s'il met deux cours dans la même salle, il viole la cohérence des données. Et s'il refuse, il y a la personne qui va lui dire « Moi, j'ai besoin d'informer les étudiants qui sont dans cette salle-là. » Des injonctions contradictoires, on en trouve plein. Il y en a de plus en plus. Alors là, c'est un simple problème informatique, ça peut paraître pas très grave, mais il y en a d'autres dans le domaine de la santé, par exemple, entre les soins et les problématiques de coûts. On est de plus en plus confronté à des injonctions contradictoires, et c'est pas facile forcément de les résoudre, ça peut être même cause de souffrance. Alors, dans le monde agile, comment on traiterait ce problème? Déjà, il faut que la DSI établisse clairement ses priorités et les partage. Cohérence des données avant le service à l'usager. Et ça, c'est nécessaire. En fait, les données, elles sont utilisées et propagées partout dans les entreprises. Et on ne le sait pas assez, mais les problèmes de cohérence des données, moi j'étais côté données à Bouygues Télécom, j'ai pu voir le problème, les problèmes de cohérence des données sont des problèmes majeurs dans les entreprises parce qu'elles se diffusent partout. Et dès que vous avez une incohérence, ça se propage et ça peut créer des incohérences absolument partout. Donc, garder la cohérence des données, c'est vraiment important. Et ensuite, on laisser l'équipe les appliquer en autonomie, le maximum d'autonomie. Il faut la vision, il faut que les données soient cohérentes, et après, vous gérez. Mais le manager, la DSI, doit être avec les collaborateurs pour aider à l'assumer. Et en particulier lorsqu'il y a une injonction contradictoire. Le problème des injonctions contradictoires, c'est qu'elles ne sont jamais évidentes pour les managers. Les collaborateurs les ressentent, ça leur tombe dessus. Pour le manager, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident comme ça qu'il y a une contradiction à mettre des étudiants d'informatique avec des étudiants de l'IAE. C'est comme ça simplement parce que ADE a été configuré de cette façon-là. Mais il n'y a que ceux qui l'utilisent qui le savent. logiquement, on devrait pouvoir mettre des étudiants ensemble. Mais non, ces deux-là, on ne peut pas. Et en principe, en particulier par un outil qui s'appelle la rétrospective, où toute l'équipe explique ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, quels problèmes elle a rencontrés, et le fait de façon autonome, et le manager peut voir quels sont les problèmes qui sont remontés. Et quand vous avez des problèmes d'injonction contradictoires comme ça, il est important que les collaborateurs les remontent. Ce qu'on constate, c'est que souvent, on n'ose pas en parler. On n'ose pas dire que là, j'ai un choix, je ne sais pas quel choix faire. Ou j'ai choisi ça, mais ce n'était peut-être pas la bonne solution. Or, c'est crucial, absolument crucial dans les organisations qu'on le remonte. Et la rétrospective est un moyen extrêmement puissant pour apprendre à le faire. C'est vraiment nécessaire et c'est un autre monde dans lequel on vit. C'est un monde où il y a de la complexité, où les managers ne peuvent pas comprendre tout ce qui se passe. Si les collaborateurs ne participent pas en remontant les problèmes, on peut pas améliorer la situation et risque de se dégrader continuellement. Je vais vous montrer la suite d'ailleurs à l'université. C'est un problème parce que les problèmes, justement, les difficultés, on ne les remonte pas. Et donc, ça aurait pu donner quelque chose comme ça. Le support DSI refuse. Il explique, ce n'est pas possible dans ADE aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas possible de mettre les L3 informatique en même temps dans le même cours que les IA. C'est bête, mais c'est comme ça. Ça remonte à la gestionnaire qui transmet la réponse au responsable L3. Le responsable L3 me dit, on ne peut pas mettre l'information sur ADE, et ça me remonte. Et moi, je dis, c'est pas grave, de toute façon, ça fait 5 ans que je fais ça. En fait, on a violé les contraintes du système alors qu'il n'y avait absolument aucun besoin. Personne ne m'a demandé si c'était indispensable, s'il fallait absolument mettre l'information dans ADE. Ça ne m'est jamais remonté. Il y avait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, pour me faire plaisir peut-être, pour me faciliter la tâche peut-être, mais moi j'en avais pas besoin. Mais personne ne le sait, on ne s'est pas parlé. On a suivi le processus qu'on vous dit, l'interaction humaine avant les processus et les outils. Les processus normaux des organisations peuvent conduire à des situations totalement absurdes, surtout dès qu'on se retrouve confronté à des exigences contradictoires. Et là, c'est un des exemples de cette situation. Alors, juste un point ici sur la façon de dire non, qu'il y a un truc en agilité qui s'appelle la communication congruente, qui est une bonne pratique à retenir, parce que moi je la trouve vraiment utile, j'y fais attention. Lorsque vous parlez d'un problème à quelqu'un, pensez à parler du contexte. J'ai bien reçu votre demande et je comprends que les deux diplômes ont un cours en commun. Parlez de ma problématique, moi, en tant que support DSI. Malheureusement, ADE ne permet pas de mettre deux diplômes appartenant à deux UFR différentes dans le même cours et nous est interdit de forcer deux cours dans la même salle. Et ça, normalement, c'est la contrainte DSI, dit on ne peut pas forcer deux cours dans la même salle. Je ne sais pas pourquoi ADE le permet, mais il ne devrait pas. Je dois donc vous demander de voir avec M. Lambert s'il peut informer les étudiants directement en cas de besoin. Vous pouvez lui dire de me contacter et je lui expliquerai. Donc là, on intègre la problématique de l'interlocuteur. Et si vous pouvez essayer, lorsque vous communiquez, alors ce n'est pas la peine de le faire de façon si systématique parce que ça se voit, ça ne fait pas très naturel, mais toujours essayer de penser à voir le contexte, la problématique, ma problématique à moi et la problématique de l'interlocuteur, ça passe beaucoup mieux. Et ça permet d'expliquer pourquoi on dit non. Et il faut dire non. Enfin, quand on a une injonction contradictoire comme ça, il faut dire non à la pratique la plus dangereuse. Enfin, il faut apprendre à dire non et il faut que le support DSI apprenne à dire non. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter de faire. Parce que derrière les outils, on les connecte. Et donc, ça devient terriblement cocasse lorsque vous avez laissé traîner des incohérences de données dans chacun des petits outils qui sont là et qui se connectent. Parce que l'incohérence de données que vous avez là, elle se connecte, elle va là, puis elle va là, puis elle va là, et ça devient totalement incompréhensible. Alors, il y a des exemples assez redoutables. ADE, c'est le logiciel d'emploi du temps. Apogée, c'est le logiciel de gestion des étudiants. Ça, c'est eCampus, c'est le logiciel de gestion des cours en ligne. Et Zimbra, c'est les logiciels d'affichage des emplois du temps étudiants. Et donc, lorsque vous êtes étudiant, il faut être inscrit dans Apogée. Donc, vous avez des tonnes d'étudiants pour avoir votre emploi du temps, parce qu'il apparaît ici. Donc, ça passe d'Apogée dans ADE et ça apparaît là. Le problème, c'est que régulièrement, vous avez des étudiants qui ont un mois de retard dans leur inscription, parce que ça traîne pour différentes raisons. Donc, pendant un mois, ils n'ont pas leur emploi du temps. Donc, ils râlent. Donc la gestionnaire de scolarité sort d'ADE un PDF qu'elle leur envoie. Et à l'arrivée, ils sont habitués à avoir le PDF. Et beaucoup d'étudiants ne se sont jamais connectés à Zimbra. Donc on nous raconte que les étudiants vont voir leur emploi du temps sur Zimbra. Ils n'ont jamais fait d'enquête pour savoir combien y allait. Mais moi, j'ai des étudiants qui me disent « Mais on n'y va jamais, surtout pas !» Ben oui, on les a habitués à faire autrement. À l'IAE, on continue à envoyer des messages aux étudiants sur leur mail personnel, alors qu'ils ont un mail université. Mais ils ne vont jamais sur leur mail universitaire. Ils ne vont jamais dans leur environnement de travail. Vous avez des choses très cocasses. Alors, on nous a dit, ouais, alors les groupes, ça doit être géré par Apogée, donc il faut mettre les groupes d'étudiants sur Apogée. Donc, il y a 15 jours, on a mis les groupes d'étudiants de projets de projet informatique sur Apogée. Et donc, ils ne voyaient plus leur emploi du temps. Ils ne voyaient pas mon cours sur ADE, sur Zimbra. Parce que entre Apogée et ADE, c'est complexe. Et donc, vous pouvez avoir un cours qui est affiché pour un groupe sur ADE, mais les étudiants du groupe ne le voient pas. Personne n'a jamais compris pourquoi. Enfin, j'ai eu le coup plusieurs fois quand j'étais en licence professionnelle. J'avais un cours, les étudiants le voyaient, le TD suivant, les étudiants ne le voyaient pas. J'ai remonté ça plusieurs fois à la scolarité. Personne ne maîtrise ce qui se passe. Des incohérences de données un peu partout, et on a mis une situation tellement complexe qu'on ne maîtrise plus. Et évidemment, ça devient petit à petit inutilisable. Alors, des choses encore plus rigolotes, c'est que pour que les enseignants qui participent à un cours soient connus d'e-campus, c'est-à-dire qu'ils puissent aller modifier le cours puisqu'ils sont enseignants dans ce cours, on s'est dit, on va absorber les données depuis ADE. Donc, ma femme qui fait cours au second semestre doit attendre, ne peut pas accéder à son cours sur e-campus parce que les emplois du temps du second semestre ne sont pas rentrés à l'UFR des sciences avant le mois de novembre. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va demander à e-campus, donc au support du CEMU, de faire accéder au cours. Donc on surcharge le support du CEMU. Tout ça parce que les données, la cohérence de données n'est pas assurée. Et on est en train de diffuser comme ça des relations entre les outils informatiques de façon totalement non maîtrisée. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est que les services des enseignants soient déduits d'ADE. Et quand on voit la qualité des données d'un ADE aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Mais personne n'alerte. C'est assez étonnant. Et ce sont des choses qui se produisent dans des organisations parce qu'elles n'ont pas l'habitude, elles n'ont pas appris, et les personnels n'ont pas appris à remonter les problèmes. On n'a pas créé, entre les éléments, entre la direction et les équipes, les moyens que les équipes remontent les problèmes. La direction descend ses préconisations, mais les problèmes ne remontent pas. Et ça, c'est l'université n'est certainement pas la seule organisation à avoir ce problème-là, bien sûr, mais c'est un problème qu'on trouve de plus en plus souvent. Et où va-t-on comme ça? Eh bien, vers une séparation de plus en plus grande entre le monde des managers et le monde des opérationnels, si on n'y prend pas garde. Il paraît même que dans le domaine de santé, ils sont même tellement séparés que les managers ne travaillent plus sur le site des opérationnels, de moins en moins. Et viennent se glisser, entre les managers et l'opérationnel, des petits narcisses. Les revoilà. Et ça, c'est ce que j'ai constaté à Bouygues Télécom. Quand vous avez une réalité complexe qui n'est pas interprétable par le management, les narcissistes, les manipulateurs narcissiques viennent se positionner parce que c'est l'endroit idéal pour eux. Et pourquoi les narcissistes sont tellement appréciés? Le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Project Killer, on m'en a reparlé lorsque je suis allé voir Yves Cazot quelques temps plus tard. Il m'a dit, je lui parlais du Club Agile, du PMI, j'organisais le Club Agile avec le PMI. Le PMI, c'est une organisation internationale de chefs de projet qui regroupe 500 000 chefs de projet. Il nous avait aidés à monter les premiers événements agiles. Il me dit, le PMI, on a un expert du PMI, il est fan du PMI, c'est Narcisse. Le type qui flinguait tous les projets à Bouygues Télécom était devenu l'expert PMI, donc chef de projet de Bouygues Télécom. C'est sympa. Je ne suis pas allé le voir, mais j'étais assez scié de la chose. En fait, les narcisses sont très forts pour mater les opérationnels et remonter des bonnes nouvelles aux managers. Ils sont appréciés pour ça. Jérôme Cahuzac, c'était ça. Il tapait, il réduisait le budget partout et il paraissait bien, il paraissait maîtriser son truc auprès des managers. Donc c'est une situation dangereuse parce que ce type d'organisation est évidemment extrêmement inefficace. Mais franchement, à Bouygues Télécom, j'avais observé ça, c'est qu'on voyait de plus en plus de personnalités narcissiques parce que le langage qu'il fallait tenir aux managers n'était pas celui qu'il fallait tenir aux opérationnels. Il fallait gérer cette différence. Et ce n'était pas super sympa. Et alors, si vous rajoutez à ça le fait que l'on met dans les managers des gens sortis tout droit des grandes écoles sans aucune expérience, comme des énarques, des polytechniciens, des centraliens ou des HEC, enfin, et puis il y en a plein d'autres, et bien vous ne faites que renforcer la chose, parce que si en plus les managers n'ont aucune idée de ce qui se passe chez les opérationnels, ça ne va pas s'améliorer. Alors l'agilité dans tout ça, et bien, moi je dis aux opérationnels, venez au printemps agile, pour apprendre à gagner en autonomie, surtout si vous êtes en bas et que vous avez des managers que vous n'arrivez plus à voir, vous avez besoin d'être de plus en plus autonome. Et ça c'est quelque chose qui vient, hein, je vois dans le domaine social, j'ai des étudiants qui travaillent dans le domaine social, et les équipes s'autonomisent petit à petit parce que le management s'est éloigné. Pour les managers, bah venez au printemps agile pour apprendre à lâcher prise. Parce qu'une des choses super importantes pour arriver à recueillir le retour des salariés et des opérationnels, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire de les laisser s'exprimer. Une fois, j'avais un manager qui me disait « Mais moi, j'ose pas faire une rétrospective, ils vont me demander plein de trucs. » Mais non! Ils vont partager les problèmes. Ils ne vont pas demander plein de trucs. Si on leur dit des trucs, ce n'est pas possible de vous les donner. Ils le comprendront, mais ils ont besoin de partager les problèmes. Ce n'est pas dans la culture du management classique, mais ça devient indispensable. On ne maîtrise plus cette complexité. Il faut absolument que les managers lâchent prise pour que les opérationnels puissent à nouveau s'exprimer. Et ce qu'on espère, c'est virer les narcisses. Pour refusionner manager et opérationnel autour de l'agilité. Voilà, ben je vous remercie. Allez découvrir toutes ces pratiques. Et il reste encore 5 minutes pour les questions, si vous désirez poser une question. Non ? Ben je vous remercie.